9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, excellent dimanche. On va passer 2 heures ensemble aujourd'hui. C'est le premier tour de l'élection présidentielle. Il n'y a donc pas de grand rendez-vous animé par Sonia Mabrouk. C'est arrivé demain, dure jusqu'à 11h. On va commencer tout de suite avec Ghassan Salamé, ancien haut fonctionnaire de l'ONU. Il a inventé un concept pour expliquer l'invasion de l'Ukraine. C'est la dérégulation de la force. Je recevrai ensuite Laurent Beck-Shankland pour le livre passionnant qu'il vient d'écrire sur nos rapports avec les animaux. Et l'historienne Natacha Henry pour le bicentenaire de la naissance de Rosa Bonheur, la femme peintre la plus célèbre du 19e siècle. Et de 10h à 11h, avec le musicologue Stéphane Lerouge, on rendra hommage à l'un des plus grands compositeurs français du 20e siècle, Michel Legrand. Il aurait dû avoir 90 ans cette année, il nous manque beaucoup, mais ses chansons sont encore sur toutes les lèvres.
Europe 1.
Bonjour Ghassan Salamé.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Ancien ministre libanais de la Culture, vous avez été conseiller de 2 secrétaires généraux de l'ONU, Kofi Annan et Ban Ki-moon. Vous avez été conseiller politique de la mission de l'ONU en Irak en 2003, envoyé spécial de l'ONU en Libye en 2017. Et à propos de la guerre en Ukraine, vous parlez de dérégulation de la force. Nous vivons depuis le début du 21e siècle dans une ère de dérégulation de la force, dites-vous. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous entendez par là?
C'est-à-dire que la force a été régulée depuis Grotius et pendant les siècles derniers. Puis elle a été régulée aussi par la Charte des Nations Unies, avant cela, par les accords de La Haye, par les accords de Genève. Il y a toute une architecture de l'usage de la force qui met beaucoup de contraintes sur les États civilisés, comme on les appelait, pour qu'ils utilisent la force avec précaution, c'est-à-dire pour faire des guerres justes et aussi pour faire des guerres indispensables, nécessaires, et aussi quand il doit faire la guerre, de la faire d'une certaine manière qui respecte la vie des civils, qui respecte la différence entre le champ de bataille et le reste du pays, etc. Eh bien, ce à quoi on assiste, je pense, depuis une vingtaine d'années, c'est à une dérégulation de la force, comme on a assisté à une dérégulation de l'économie. C'est-à-dire à une levée petit à petit des contraintes juridiques, coutumières, qui réglaient le recours à la force au profit du, pratiquement, celui qui peut faire quelque chose. Eh bien, rien ne l'arrête de le faire.
Oui, d'autant plus si c'est une puissance nucléaire. Hein. Utiliser la force quand on veut pour faire ce qu'on veut. Au fond, vous dites, ce sont les États-Unis qui ont ouvert la boîte de Pandore en envahissant l'Irak en 2003.
Je pense qu'il y a eu un très grand moment d'hésitation dans le système international après la chute du mur de Berlin. Et qu'il y avait plusieurs tendances. Une tendance qui voulait tirer le maximum au niveau de l'hégémonie aux États-Unis, de l'hégémonie des États-Unis sur le système.
Les États-Unis étant à ce moment-là la seule
puissance pratiquement unipolaire. Et d'autres qui disaient non, les États-Unis doivent se recroqueviller sur eux-mêmes et ne pas tenter de se contenter en fait de leur victoire dans la guerre froide. Et il y avait une troisième ligne qui disait non, il faut utiliser le moment pour construire un ordre mondial, on l'a appelé l'ordre constitutionnel global. Et il y a eu un moment d'hésitation. On a fait beaucoup dans ce sens-là, dans le sens d'une régulation supplémentaire. On a créé la Cour pénale internationale, on a créé l'Organisation mondiale du commerce, on a fait plusieurs accords pour la réduction des forces en Europe, conventionnelles autant que nucléaires. On a admis la Chine au sein de l'OMC. Il y a eu des choses qui ont été faites. Mais il est vrai qu'avec l'arrivée de George Bush fils en 2001, avec aussi le 11 septembre, eh bien, il y a eu une espèce de choix, au contraire, de nature hégémoniste. Et ça a été très clair au moment, beaucoup plus de la guerre d'Irak que de la guerre d'Afghanistan. Parce que la guerre d'Afghanistan était une opération punitive contre un acte terroriste sans précédent, spectaculaire, que tout le monde applaudissait, d'ailleurs. Il y a eu une résolution du Conseil de sécurité pour l'applaudir. Les Russes, Poutine lui-même, y a participé d'une manière très active aux côtés des Américains. Mais la guerre de 2003 était une guerre de choix, était une guerre qui n'était pas acceptée par des pays importants comme la France, l'Allemagne, la Russie, le pape, et qui n'était pas nécessaire et qui a produit des effets extrêmement néfastes sur l'équilibre des forces et la stabilité d'une grande région du monde qui est le Moyen-Orient.
Au fond, en 91, George Bush, le père, qui parle du nouvel ordre mondial, rassemble une coalition internationale autour des États-Unis pour libérer le Koweït, mais il n'envahit pas l'Irak pour renverser Saddam Hussein, alors qu'il avait les moyens, évidemment.
Il avait les moyens de le faire.
Mais il n'avait pas le mandat, donc pas la légitimité, donc il ne le fait pas. En 2003, son fils, George W. Bush, ne prend pas les mêmes précautions. Il peut le faire, il le fait.
Oui. C'est exactement cela. Le père avait les moyens. En fait, ils ont mis les Américains 9 mois pour que tout le monde puisse participer à cette coalition, qu'elle soit la plus large possible.
Celle de la guerre du Golfe,
De 90. Hein. Ils ont obtenu 12 résolutions successives du Conseil de sécurité pour vraiment légitimer l'opération. Et puis après, quand ils ont fait l'opération, ils l'ont fait dans les limites de ce que ces résolutions leur permettaient de faire. Par contre, en 2003, 10 ans plus tard, ou 13 ans plus tard, ce que le George Bush fils fait, c'est une guerre de choix, sans résolution du Conseil de sécurité, sans l'appui de ses alliés, suivant la règle qui même me suivent, et qui est allé jusqu'à faire un changement de régime qui a été catastrophique pour les Irakiens, mais aussi pour l'équilibre régional et pour la stabilité régionale depuis. Alors on peut dire aux Irakiens aujourd'hui, oubliez tout ça, on ne fait plus ça. C'est ce que M. Blinken est en train de dire aujourd'hui, je le crois. Et l'envie de faire du régime change à travers le monde a largement disparu aujourd'hui aux États-Unis.
Le régime change, c'est le changement de régime brutal.
Le changement de régime brutal, oui.
Eh
bien, le changement de régime n'est plus à la mode, du côté américain au moins.
Oui.
Peut-être qu'il est un peu du côté russe, mais les gens n'oublient pas, parce que les résultats de cette équipée de 2003 sont encore là, visibles, dans la guerre entre sunnites et chiites, dans l'incapacité de l'Irak à construire un État fonctionnel, et aussi dans l'équilibre régional entre l'Iran et les pays arabes de cette région.
Et dans la guerre en Ukraine, on le voit tous les jours aujourd'hui.
C'est une dérégulation de la force, et ça on ne peut pas le nier, c'est une guerre de choix. C'est une guerre qui n'est pas légitimée par une résolution du Conseil de sécurité et c'est la guerre du fort contre le faible. Et étant donné le pays où je suis né, ni on aime l'invasion de plus fort que soi, parce que le Liban en a beaucoup souffert, ni on aime voir des massacres, parce que depuis que je suis né, j'en ai vu quelques-uns dans mon propre pays. Donc vous imaginez qu'il m'est difficile d'accepter cette invasion de l'Ukraine.
On fait une pause, Ghassan Salamé, on se retrouve juste après.
Europe 1,
9h-10h, c'est arrivé demain. 9h-10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec Ghassan Salamé qui parle de dérégulation de la force. Ce serait les États-Unis, dites-vous, en 2003, qui ont ouvert la boîte de Pandore. La dérégulation de la force qui a permis à Vladimir Poutine d'envahir la Géorgie en 2008, puis l'Ukraine une première fois en 2014, qui a permis à la Turquie de s'engager en Iran puis en Libye, à l'Iran d'élargir son influence au Moyen-Orient, la Chine aussi, en faisant planer une menace de plus en plus lourde sur Taïwan. En Libye, en 2011, c'est la même chose. La France et ses alliés ont un mandat de l'ONU pour protéger les populations civiles libyennes, pour mettre en place une zone d'exclusion aérienne, mais pas pour renverser Kadhafi.
J'ai lu les mémoires de M. Obama, qui regrette d'avoir participé à cette équipée. J'ai entendu M. Macron aussi regretter cette opération. Effectivement, c'est une opération où le doute reste. Si véritablement il y avait un massacre ou un génocide, comme disaient les plus extrêmes à cette époque, était en jeu. Mais le problème que j'ai pu vivre de très près, parce que j'ai passé 3 ans en Libye comme représentant des Nations Unies, c'est que c'est une opération qui n'avait pas de lendemain. On a dégommé un dictateur, on n'a rien mis à la place. Or, ce pays avait été gouverné pendant 42 ans par un seul monsieur, et subitement il était laissé à lui-même. Et je crois qu'il y a une certaine responsabilité quand on détourne un peu le sens de la résolution 1973 pour aller envahir un pays comme la Libye, pour détrôner un dictateur qui est là depuis 42 ans, il y a une certaine responsabilité pour le jour d'après. Et je crois que les Occidentaux n'ont pas assumé cette responsabilité, ont laissé les Libyens à eux-mêmes, Et les Libyens eux-mêmes, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'État. Il y avait une grosse implosion en réalité de la société libyenne. Et il y avait surtout une compétition énorme pour la rente. Parce que la Libye n'est pas un pays, c'est pas la Somalie, c'est pas le Liban, c'est un pays riche qui produit tous les matins 1,2 ou 1,3 million de barils par jour. Donc il y a une énorme rente, un énorme gâteau. Il n'y avait pas d'arbitre pour assurer la redistribution de ce gâteau à l'ensemble des groupes qui sont nés comme des champignons à travers le pays.
Ghassan Salamé, est-ce qu'on n'a pas voulu recommencer en Syrie en 2012 contre Bachar el-Assad? Et là, Barack Obama s'y est opposé au dernier moment. Hein. Depuis, les Américains, vous l'avez dit, ont renoncé officiellement à cette politique de regime change, de changement de régime brutal, de changement de régime par les armes. Et quand Joe Biden a parlé récemment de renverser Vladimir Poutine, il a été corrigé rapidement par le Département d'État.
Bah, le problème, j'ai un ami en fait, qui a travaillé de très près pour M. Obama et qui avait résumé la situation en ces termes un peu tragiques. Il avait dit, si on envahit et on reste, c'est dramatique, c'est l'Irak. Si on envahit et on ne fait rien après, c'est dramatique, c'est la Libye. Si on n'envahit pas, c'est dramatique aussi et c'est la Syrie. Donc, qu'on fasse, qu'on ne fasse pas et qu'on fasse en restant, c'est le même résultat, on ne réussit pas. C'est pourquoi il y a ce sentiment aujourd'hui, il y a cette réticence auprès de Biden, mais aussi, je dois dire, avant lui, Trump et Obama, à intervenir, à faire du changement de régime à tout va à travers le monde. Hélas, ils avaient déjà donné le mauvais exemple avec l'Irak en 2003. Et la Russie, la Chine, la Turquie, l'Iran, que sais-je, même des petits pays comme le Rwanda ou le Tchad, sont des petites Spartes qui interviennent dans beaucoup de pays africains voisins. Donc, il y a eu une espèce d'effet de chaîne au cours des 20 dernières années que les Américains qui ont changé de sentiment maintenant changent de sentiment à un moment où leurs émules se sont multipliées, hélas, à travers le monde, à commencer par la Russie en Ukraine.
Et on voit d'ailleurs aujourd'hui des pays comme la Hongrie, l'Amérique latine, l'Inde, l'Israël, le Maroc, l'Afrique du Sud, qui refusent de suivre l'Occident comme ils l'auraient fait autrefois, du temps de la guerre froide, où c'était deux blocs qui s'opposaient, où chacun, à chaque fois, retrouvait ses alliés. Là, c'est plus du tout la même chose. Vous Quand on parle de guerre froide, vous dites non, ça n'est pas la même chose.
Non, ça n'est pas la guerre froide. La guerre froide était marqué par la bipolarité, c'est-à-dire par l'existence de deux mecs idéologiques, idéologiques qui se faisaient face et qui essayaient d'avoir des alliés et des protégés à travers le monde. Et on avait des majorités automatiques à l'Assemblée générale des Nations Unies dans un sens ou dans un autre. Là, on a essayé de produire cette majorité automatique, on ne l'a pas trouvée. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ce n'est pas vrai que tous ces pays soient anti-occidentaux. La plupart d'entre eux sont amis de l'Occident et ont des intérêts en Occident. Ce n'est pas des dirigeants aveugles. Ils savent que les États-Unis restent la première puissance mondiale. Ce ne sont pas des gens qui veulent ou qui appuient ou qui applaudissent à l'invasion de l'Ukraine. Certains sont des tout petits pays qui ont déjà été envahis par des voisins plus grands et donc détestent de voir des grands pays envahir des petits pays. Ce qu'il y a, c'est autre chose. C'est qu'au cours de ces années qui ont passé depuis la chute du mur de Berlin, tous ces États ont accru leur autonomie. Donc, ils ne répondent pas par oui ou par non à un téléphone qui leur viendrait de Washington, de Paris, de Moscou, etc. Ils voient d'abord où se trouvent leurs intérêts. Quand l'Inde ne vote pas dans un certain sens, c'est parce qu'elle n'oublie pas que 70% de son arsenal nucléaire, de son arsenal militaire vient de la Russie. Et donc, elle a peur d'être sanctionnée par la Russie demain pour les pièces de rechange, etc., si jamais elle sanctionnait aujourd'hui la Russie. Lorsque la grande majorité des pays arabes, en fait tous les pays arabes à l'exception de la Libye, n'ont pas voté avec l'Occident, ce n'est pas qu'ils soient anti-occidentaux, Maroc,
l'Arabie Saoudite
ou les Émirats, etc., c'est que tout simplement, ils ont des soucis que les Américains n'ont pas écoutés. Et ils disent aux Américains et aux Occidentaux, écoutez, vous voulez qu'on prenne position sur l'Ukraine, mais nous, on a frappé à votre porte et vous ne nous avez pas ouvert sur l'Iran ou sur telle question. Et les pays africains, eux, ils se disent, bon, la Russie est héritière de l'Union soviétique, qui a aidé à notre décolonisation, qui nous a aidé contre l'apartheid, qui est alliée avec la Chine, qui est notre principal partenaire commercial. Donc on a beaucoup à perdre, à prendre une position pavlovienne au profit de l'Occident. Qu'est-ce que vous nous mettez en face ? Donc il y a maintenant une grande autonomie des acteurs moyens, comme la Turquie ou l'Iran, etc., et des petits acteurs sur la scène internationale qui négocient ou veulent renégocier le rapport avec les pays occidentaux avant de leur répondre par oui ou par non.
12 économistes qui a parlé récemment d'un ordre mondial alternatif, au fond.
C'est un ordre mondial en cours de gestation. Il pouvait aller dans un tout autre sens après la chute du mur de Berlin. Il est allé dans un sens plus chaotique depuis 2003. Je crois que cette guerre d'Ukraine, parce qu'elle a lieu en Europe, parce qu'elle touche l'homme blanc de près. L'homme blanc ne peut pas dire c'est la guerre des autres. C'est toutes ces guerres chez les Noirs, chez les Basanés, etc. Non, au cœur de l'Europe. Parce qu'elle implique une puissance membre permanent du Conseil de sécurité et une puissance nucléaire. Pour toutes ces raisons, je crois que la guerre d'Ukraine a ouvert beaucoup d'yeux et a réveillé beaucoup de gens endormis pour savoir qu'il faut revenir à une certaine norme commune. On ne peut pas rester dans cette espèce de dérégulation comme on l'a fait en économie. Et d'ailleurs, en économie, on se rend compte aujourd'hui que la dérégulation pure et simple de l'économie ne vous permet pas de, par exemple, défendre vos sociétés contre le Covid, que tout le monde a besoin de l'État et que donc jeter l'État à la poubelle, comme c'était un peu l'idée libérale extrême d'il y a une dizaine d'années, s'est retrouvée fausse. Eh bien, il en va de même de la diplomatie et de la guerre. Déréguler tout à fait la force, cela aboutit à un monde hobbesien ou de tous contre tous et non pas à un monde normatif auquel on peut espérer et qu'on peut et qui est notre droit de construire, notre devoir de construire.
Merci Ghassan Salamé de toutes ces explications. On fait une pause, on se retrouve juste après. On va parler de nos rapports personnels aux animaux.
9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Laurent Beck-Shankland.
Bonjour.
Vous êtes professeur de psychologie sociale à l'Université de Grenoble. Vous dirigez la Maison des sciences de l'homme dans les Alpes et vous publiez chez Odile Jacob un livre intitulé « Face aux animaux, nos émotions, nos préjugés, nos ambivalences » avec une préface de Boris Cyrulnik. Pendant des millénaires, au fond, les animaux nous ont fascinés par leurs différences. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est le contraire. Nous trouvons qu'ils nous ressemblent.
Alors on peut effectivement voir dans cette tendance un biais dit d'anthropocentrisme, en tout cas on va les rapporter en quelque sorte à nos propres valeurs, nos propres conceptions, et c'est vrai qu'on se projette beaucoup dans les animaux, mais en même temps l'anthropocentrisme c'est aussi finalement une manière de les inclure en quelque sorte dans notre mode de pensée. Donc nous allons de plus en plus être conscients de leur disposition, de leur capacité, et cette élévation des prises de conscience nous empêche finalement d'en faire n'importe quoi.
Mais ça ne nous empêche pas de les manger.
Alors oui, il y a bien sûr des stratégies qui nous permettent de les manger sans se faire trop, voilà, sans avoir trop mauvaise conscience. On peut tout simplement les démentaliser, c'est-à-dire minimiser leur capacité mentale et émotionnelle, penser que finalement leur vie intérieure est très faible, ou bien tout simplement considérer que nous sommes obligés de les consommer, puisque nous pensons, en tout cas certains pensent que c'est nécessaire pour la santé, ou parce que tout le monde le fait. Donc il y a des stratégies finalement de justification qui font que oui, beaucoup d'entre nous continuons à les manger. Cependant, il y a des tendances, je dirais, des grandes tendances sociétales qui sont constatées aujourd'hui, notamment auprès des plus jeunes, donc des changements alimentaires qui sont en route.
Mais alors ce que nous appelons les animaux, ça représente 9 millions d'espèces environ, ils ne nous émeuvent pas tous de la même manière, on a des préférences, non ?
Voilà, c'est assez intéressant de voir que notre empathie, elle est très sélective. Elle l'est déjà vis-à-vis des groupes humains, c'est trop évident à chaque jour, mais elle l'est également vis-à-vis des groupes animaux. Et cette résonance, cette empathie vis-à-vis des animaux, elle découle d'un certain nombre d'éléments. Par exemple, eh bien, tout simplement, lorsque ces animaux sont proches de nous du point de vue de l'évolution, nous nous reconnaissons davantage en eux. S'ils ont, par exemple, un visage, s'ils ont deux ou quatre pattes, eh bien, nous sommes beaucoup plus enclins à les inclure dans notre sphère morale que s'ils sont beaucoup plus loin. Il y a une belle étude qui a été faite par des collègues, par exemple, du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, qui ont justement présenté à des participants des photos d'animaux, et les participants devaient choisir entre chacune des paires de photos laquelle espèce ils préserveraient s'il fallait n'en choisir qu'une. Et on a constaté que, eh bien, les animaux plus proches de nous, du point de vue de l'évolution, sont favorisés. Après, il y a également des, je dirais, des prescriptions culturelles qui font que nous allons préférer, bien les chiens aux cochons. Dans certains pays, ça sera peut-être l'inverse. En tout cas, on consomme des chiens en Corée et en Chine. Et donc, tout cela va également dicter nos comportements avec eux. Même en France, d'ailleurs, nous avons mangé du chien au 19e siècle. Et puis, nous avons brûlé des chats, nous avons utilisé pour des pelages. Et aujourd'hui, la nourriture pour chats pèse plus de 1 milliard d'euros. Donc, on a des évolutions historiques. Et puis après, il y a des facteurs individuels qui font que certains d'entre nous sont plus que d'autres sensibles à la cause animale et les maltraitent moins. On a des recherches qui ont été, par exemple, sur la différence entre les hommes et les femmes. Les femmes sont près de 40 fois moins enclines à frapper les animaux, à les blesser, et sont plus souvent que les hommes impliqués dans les groupes de préservation des animaux. Donc, on a effectivement des variations qui sont également liées à des traits individuels.
Alors, il y a vraiment des études intéressantes dans votre livre, Laurent Beck-Shankland. Par exemple, on s'aperçoit qu'on considère les animaux aussi en fonction de la vitesse à laquelle ils se déplacent. Plus la vitesse à laquelle ils se déplacent est proche de la nôtre, plus on les considère.
C'est ça, c'est assez surprenant, effectivement. Ça participe de cette idée que lorsqu'il y a des similarités entre les animaux et nous, ça peut être la vitesse de locomotion, cela peut être des traits morpho-faciaux, cela peut être des vocalisations. Dès qu'on peut se projeter, hein, effectivement, l'anthropomorphisme, dès qu'on peut se projeter sur eux, eh bien, on va leur accorder davantage d'intérêt, voire davantage de droits. D'ailleurs, même les militants animalistes, finalement, sont beaucoup plus impliqués dans la libération de singes que de souris. Donc, même chez les personnes qui sont très sensibles à la cause animale, il y a cette difficulté finalement à ne pas être influencé par les paramètres de similarité.
Alors par exemple, il y a leur taille évidemment, hein, on va être plus sensible aux animaux de grande taille qu'aux animaux minuscules. Est-ce que ça fonctionne aussi en fonction de la menace qu'ils ont représentée ou de la peur qu'ils nous inspirent ?
Bien sûr, bien sûr. Il suffit d'avoir, par exemple, un adversaire dans votre maison, je ne sais pas, des souris, des rats, des charançons, et puis, eh bien, vous avez un sentiment de conflit d'intérêt. Et donc, tout cela, ça va déclencher des stéréotypes et des perceptions, finalement, des animaux comme des menaces, et donc enclencher des comportements destructeurs, très souvent. Donc, il y a effectivement cette idée de menace. Il faut se rappeler que les animaux, pendant très longtemps, effectivement, nous ont physiquement menacés. Et encore aujourd'hui, il y a 50 000 morts par an, suite à des piqûres, des morsures de serpents, 1 000 par des crocodiles, enfin, des accidents avec des crocodiles. Par contre, effectivement, il y a parfois un décalage entre ce que les gens pensent comme, effectivement, la dangerosité. Par exemple, les requins ne tuent que 10 personnes par an, alors que les moustiques en tuent 750 000. Donc il y a effectivement ce sentiment de menace qui va être lié à l'espèce et qui va être lié à des modalités effectivement de conflit.
On fait une pause, Laurent Beck-Shankland. On se retrouve juste après.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Face aux animaux, nos émotions, nos préjugés, nos ambivalences, c'est le livre de Laurent Beck-Shankland, professeur de psychologie sociale à l'Université de Grenoble, qui vient de paraître chez Odile Jacob avec une préface de Boris Cyrulnik. On y comprend qu'on a des rapports différents avec telle ou telle espèce animale, en fonction de l'intelligence qu'on leur prête, en fonction de l'époque à laquelle nous nous trouvons, en fonction du pays que l'on habite. Aussi, vous l'avez dit, si l'on est un homme ou une femme. Au fond, vous parlez d'un compagnonnage ancestral avec les animaux. Hein. Ils ornent déjà les parois des cavernes préhistoriques il y a 45 000 ans. Hein. Ils nous fascinent depuis toujours.
C'est ça. Donc, il y a effectivement leur place dans la culture est absolument fondamentale. Et j'ai essayé aussi de rappeler un peu la contribution à la fois à nos musiques, à tous nos arts. En fait, ils sont présents dans tous nos arts. Et notre attachement est vraiment très profond et très ancien. Il y a bien sûr, je l'évoquais tout à l'heure, des conflits, mais il y a peut-être surtout une très grande proximité, une très grande attache avec les animaux, notamment les animaux dits de compagnie. Et on sait aujourd'hui que lorsque nous perdons un animal proche, eh bien, il y a des phases de deuil qui peuvent être très proches, finalement, de ce que nous éprouvons pour des deuils d'êtres humains. Dès le plus jeune âge, une fascination très forte. Hein, les nourrissons, déjà, à quelques jours, fixent plus des configurations lumineuses qui stimulent le déplacement d'une poule que des figures aléatoires ou à l'envers. Dès 7 mois, les réseaux neuronaux qui sont activés sont différents lorsqu'on présente des photos de chiens ou d'objets familiers. Et puis, dans l'apprentissage, les animaux sont très présents, hein, dans les livres, évidemment, d'apprentissage de lecture, dans toutes les finalement les activités scolaires, on les a mis partout. Hein, donc les animaux marquent dès le plus jeune âge. Il y en a partout. D'ailleurs, ils sont également impliqués dans le bien-être au quotidien. Une très belle enquête qui avait été faite dans 26 pays européens montrait que plus il y a d'espèces d'oiseaux dans le voisinage, plus le bien-être des résidents est élevé.
Mais Laurent Beck-Shankland, il nous fascine depuis toujours. Et en même temps, on a toujours refusé l'idée que l'on était comme eux. On les voit soit comme des dieux, soit comme des tueurs, des prédateurs, un danger, soit comme de la chair fraîche, au fond, qu'on va manger.
C'est ça, nous sommes finalement à la fois l'espèce qui a le plus de relations avec toutes les autres espèces animales, donc vraiment nous sommes une espèce à part, puisque nous avons des liens avec de très nombreuses autres espèces, et puis en même temps, nous sommes la seule espèce qui prétend ne pas être un animal. Et c'est évidemment tout à fait intéressant de le noter, parce que, je dirais, nos systèmes culturels nous ont amenés à penser que nous sommes des êtres supérieurs, que nous sommes des êtres qui ont été créés par des divinités, et cela va notamment, hein, les monothéismes vont largement contribuer à façonner cette césure finalement entre les animaux et les humains. D'ailleurs, cette césure est beaucoup moins présente dans les pays orientaux, justement, où les gens sont beaucoup plus en contact avec des animaux anthropomorphes, comme des singes. Donc là, la césure a été plus forte en Occident pour ces raisons. C'est en tout cas la thèse du primatologue Franz De Waal.
Aujourd'hui, on aime les animaux, on les aime de plus en plus. Vous pensez que si l'on devait les tuer nous-mêmes, les animaux que l'on mange, il y aurait beaucoup plus de végétariens ?
Alors c'est la position de la fameuse position de Paul McCartney qui disait que si les abattoirs avaient des vitres transparentes, tout le monde serait végétarien. C'est l'idée qu'évidemment, lorsqu'il y a effacement et évitement des animaux, il est plus facile de les utiliser. Norbert Elias, le sociologue qui s'est beaucoup intéressé à l'évolution de la civilisation, a bien marqué dans ses travaux que on a eu une disparition des gros gibiers sur les tables, on a un éloignement des abattoirs aux périphéries de la ville, le langage va être aseptisé, on parlera de porc, de rump steak, pas de cochon, et puis effectivement, on a vraiment de plus en plus des contacts avec des animaux sous forme de forme triangulaire. Voilà, on ne voit pas l'animal, on voit simplement un steak sur une barquette. Alors clairement, évidemment, c'est une façon commode d'oublier l'animalité. Alors j'ai réalisé dans le cadre d'une étude expérimentale à Grenoble également un protocole où des participants devaient utiliser un poisson pour la recherche. Donc ils devaient en fait, sur le modèle d'une expérience de 1000 grammes, ils devaient administrer 12 doses d'un produit soi-disant toxique à ce poisson, qui en fait était un robot très très réaliste, mais les gens ne le savaient pas. J'ai essayé de comprendre quels étaient les facteurs individuels et les facteurs de circonstances qui faisaient que les gens, personnellement, parvenaient à tuer le poisson pour la science. Et ce que j'ai observé, c'est que des personnes qui avaient un niveau d'empathie un peu plus bas, ils parvenaient davantage. Les femmes, ils parvenaient beaucoup moins que les hommes, par exemple, aussi. Et puis, on a également pu constater que finalement, lorsque les gens créent dans leur tête une césure très forte entre les animaux et nous, eh bien, ils sont beaucoup plus enclins aussi à pouvoir faire ce mauvais traitement, à pouvoir l'appliquer. Donc, je crois qu'il y a à la fois des stratégies, en quelque sorte, matérielles. On ne voit pas l'animal, on voit le steak découpé. Et également, des représentations très fondamentales qui, finalement, font qu'on ne voit pas avec nos yeux, mais avec nos systèmes de croyances, qui font qu'on ne voit pas dans l'animal un être vivant et sensible, mais simplement un potentiel objet, un potentiel ingrédient ou un potentiel aliment, peut-être.
Merci, Laurent Beck-Shankland. Je renvoie à votre livre « Face aux animaux, nos émotions ». Nos émotions, nos préjugés, nos ambivalences, ça vient de paraître chez Odile Jacob. Et on continue un peu de parler d'animaux avec Rosa Bonheur, dont on commémore le 200e anniversaire de la naissance. On en parle juste après une pause. C'était la plus grande peintre animalière de son temps.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
On célèbre cette année le 200e anniversaire de la naissance de Rosa Bonheur, née le 16 mars 1822, qui est devenue la plus grande peintre animalière de son temps. Une star énorme, la femme peintre la plus célèbre et la plus chère du 19e siècle. Le musée de Bordeaux et le musée d'Orsay à Paris préparent deux grandes rétrospectives. Natacha Henry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, vous avez déjà consacré deux livres à Rosa Bonheur. L'un est une biographie, Rosa Bonheur l'audacieuse, chez Albin Michel. L'autre, c'est sur son amitié avec Buffalo Bill. Et vous venez d'établir une nouvelle édition de son livre autobiographique « Souvenirs de ma vie » qui était paru en 1908. Alors commençons par la présenter, cette femme extraordinaire dont les tableaux représentent des bœufs, des moutons, des cerfs ou des chevaux qui se vendaient en 1886, j'ai calculé, 135 fois plus cher qu'un tableau de Claude Monet, le chef de file des impressionnistes. Elle était presque aussi chère qu'Ernest Meissonier, la star du moment qui peignait des batailles de Napoléon. Comment avait-elle fait ?
Sa vie couvre tout le 19e siècle, donc c'est une carrière assez longue. Elle est née en 1822 et très tôt, elle veut devenir peintre, peintre animalière. Et son père est portraitiste, il sait que ça ne gagne pas très bien l'art. Il pense à ce moment-là qu'elle ne va pas bien gagner sa vie et il lui conseille d'être couturière. Et elle va s'y opposer et à partir de ce moment-là, il va la former et il va lui autoriser au bout d'un moment à aller au Louvre copier les anciens. Et puis ensuite, comme elle décide vraiment de s'intéresser à la peinture animalière, elle va aller se former dans les marchés aux bestiaux, aux abattoirs, pour voir comment est fabriqué un animal. C'est une femme qui travaille énormément et qui acquiert des compétences quasiment vétérinaires de l'anatomie animale.
À tel point qu'aujourd'hui, nombre d'espèces disparues, les bœufs par exemple, qui ne tirent plus nos carrioles, donc qui ont disparu, on les connaît grâce à Rosa Bonheur.
Rosa Bonheur, elle aimait beaucoup voyager, notamment en France, dans les Pyrénées, dans le Cantal, et puis aussi en Angleterre et en Écosse. Elle a fait pas mal de voyages et partout, elle dessinait, ramenait des croquis, etc. Et grâce à cela, nous avons la connaissance de races qui, effectivement, ont disparu. C'est une œuvre comme un témoignage historique.
Est-ce qu'on sait pourquoi les animaux ? Pourquoi a-t-elle décidé d'être peintre animalière ?
Moi, je pense que ça lui donnait une sacrée liberté. Parce que quand vous êtes portraitiste comme son père, l'éther et mon bonheur, alors vous avez affaire à des êtres humains qui sont compliqués, qui ne sont pas toujours d'accord avec le résultat, etc. Elle avait envie d'être dehors. Et puis, c'est une femme qui se sent bien au contact des animaux, qui pense que les animaux ont une âme, ce qui n'était pas le cas de tout le monde à l'époque. Et ça lui donne une liberté. Et puis, comme elle est vraiment très, très compétente, elle a bien compris que c'était ça qu'il fallait continuer à faire. Elle a aussi peint dessiné des caricatures qui seront à l'expo à Orsay, qui sont drôles, qui sont sympas, etc. Mais vraiment, son talent, c'est l'art animalier. Et ça a marché. Elle a été repérée très jeune en exposant au salon. Et puis, assez vite, ça a tellement bien marché qu'elle a arrêté de peindre sur commande. Elle a fait ce qu'elle voulait. Et puis, les galeristes se chargeaient de vendre. Et ça a décollé assez vite, y compris aux États-Unis.
Elle s'habille en homme pour courir les champs, les marchés, les montagnes. Elle avait même un permis spécial, hein, une époque où il était interdit aux femmes de s'habiller en homme.
Elle avait obtenu, ainsi que son amie Nathalie Mikas, avec laquelle elle vivait, une permission de travestissement, oui, afin de pouvoir porter un pantalon. C'est quand même beaucoup plus pratique pour traîner dans les abattoirs et monter à cheval.
Bon, elle a toujours refusé de se marier pour préserver sa liberté et son indépendance. Elle était homosexuelle.
Oui, évidemment.
Et vous dites oui, évidemment. Et elle repose d'ailleurs au Père Lachaise avec son amie Nathalie Mikas et avec Anna Plumke.
Nathalie Mikas, elle avait 12 ans quand Rosa Bonheur l'a rencontrée et qu'elle-même en avait 14. Donc c'est l'histoire de ces deux femmes qui va durer jusqu'à la mort de Nathalie Mikas 50 ans plus tard. Elles vivent ensemble pendant 50 ans. Et bien entendu, il n'y a pas de mariage pour tous et toutes à cette époque, au 19e siècle. Cependant, ça donne tous les aspects d'un couple marié. Enfin, financièrement, en vie quotidienne. Le livre Souvenirs de ma vie ne raconte que ça. C'est de la vie quotidienne avec Nathalie Mikas. À la mort de Nathalie Mikas en 1889, Rosa se retrouve totalement désespérée. C'est d'ailleurs sa rencontre avec Buffalo Bill qui va un peu la remettre au travail.
Buffalo Bill qui vient en France.
Hein, il vient en France avec son Wild West Show, qui s'installe à Neuilly avec son hippodrome, les Indiens, etc. Et là, elle va avoir envie de peindre des bisons et puis finalement des Sioux Lakota qui sont avec lui. Là, ça va un peu la remonter, etc. Et à la faveur de cette exposition universelle et la venue des Américains à Paris en 1889, elle rencontre pour la première fois Anna Plumke, qui sert d'interprète à un Américain qui passe par là. Et donc, des années plus tard, Anna Plumke revient. « Madame, pourrais-je faire votre portrait ?» Car Anna Plumke est portraitiste américaine. Rosa Bonheur dit « Oui, bien sûr ». Et puisque vous êtes là, est-ce que vous voulez bien aussi m'écouter et écrire mon autobiographie ?
Celle que vous venez de rééditer, on va en parler dans un instant, mais d'abord le succès considérable de Rosa Bonheur en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, à 37-38 ans, c'est une telle étoile artistique, c'est le mot qu'elle emploie, qu'elle est assaillie par les visiteurs dans son atelier parisien, on essaye de lui soutirer des autographes, des dessins, des croquis, des souvenirs, et pour fuir la célébrité, pour se rapprocher de la nature, elle achète un château à la campagne où elle vivra jusqu'à sa mort et qui est aujourd'hui son musée, hein.
Oui, on peut visiter son atelier. Effectivement, les gens, vu la notoriété qu'elle avait, elle habitait dans le 6e arrondissement, tout le monde débarquait toute la journée pour la voir, mais parce que c'est une très très grande artiste. Et également, elle avait construit, elle avait construit son personnage. Cette coupe de cheveux courts que son père lui avait imposée parce qu'il ne savait pas la coiffer. Donc, elle avait adopté cette coupe de cheveux très courte. Elle avait ce pantalon. Elle était un peu comme ça, carrée physiquement. Elle vivait avec Nathalie Mikas. Les gens étaient fascinés quand même. Et puis, elle faisait ces tableaux qu'aucune femme jamais n'avait imaginé peindre. Des tableaux. Elle avait décidé aussi de donner à la peinture animalière ce qu'elle appelait des dimensions de la peinture d'histoire. C'est des toiles immenses. Et là où son succès commence, c'est quand un milliardaire américain achète le marché aux chevaux pour le Metropolitan Museum de New York. Et c'est une toile immense avec tous les percherons. Et là, le business y vient aussi. Parce que comme ce sont des percherons français, les Américains se disent « Ah, génial !» Et ils achètent des bateaux pleins de percherons français. Donc, et puis, elle n'est pas dans la provocation, Rosa Bonheur. Elle est très bien, par exemple, avec les gouvernements successifs, avec l'impératrice Eugénie, qui va lui donner une Légion d'honneur pour fait d'art, enfin, pour avoir été une grande artiste. Et puis ensuite, le président Sadi Carnot. Donc, elle est aussi dans les bons milieux, en fait.
Oui, elle ne choque personne. Elle est habillée en homme, elle vit avec une femme. On la considère comme une excentrique, un peu comme toujours avec les peintres. On est plus tolérant, j'ai remarqué, avec les peintres qu'avec le commun des mortels.
Mais moi, je ne sais pas si elle choquait tant que ça, finalement. Parce que je suis consciente, évidemment, qu'elle ne ressemble pas à toutes les dames du 19e siècle. Beaucoup d'autres artistes femmes ne se sont pas mariées et ont vécu avec une amie. Voilà, il y en a
plein. On est plus tolérant, en fait, qu'on ne l'imagine aujourd'hui.
Bon, ça se trouve, il y en a deux ou trois qui rigolaient sous cap quand elle se promenait parce qu'elle avait un peu l'air d'un garçon et ça choquait les gens. Mais enfin, quand elle raconte son histoire à Anna Klumke, il y a peu d'ennemis, il y a peu d'adversaires. Elle a une vie assez calme, au fond.
Sa vie qu'elle raconte à Anna Klumke, c'est « Souvenirs de ma vie » que vous publiez chez Phébus. En quoi est-il différent du livre tel qu'il était sorti en 1908, 9 ans après sa mort ?
Eh bien, pas tellement, hein, parce que nous avons reproduit le livre qui était sorti en 1908. Ce qui s'est passé, c'est que quand elle a confié à Anna Klumke le soin de raconter son histoire, elles se sont assises toutes les deux et Rosa Bonheur a parlé à Anna Klumke, mais elle est décédée avant d'avoir fini. Donc Anna Klumke se retrouve avec ce témoignage, mais il faut combler les lacunes. Alors elle interviewe les gens que Rosa Bonheur a connus, elle fouille dans les papiers parce qu'elle a hérité de la maison, donc elle regarde, etc. Et elle produit ce livre qu'elle aura mis 10 ans à écrire quand même, et qui n'avait pas été disponible pour le grand public en librairie. Depuis. Alors pour le bicentenaire, avec les éditions Phébus, on s'est dit c'est merveilleux de rendre à Rosa Bonheur sa voix. Ce qui a changé, c'est qu'à l'époque, le livre n'était signé que d'Anna Klumke. Et maintenant, en 2022, vous êtes obligé de considérer que Rosa Bonheur est co-auteur de ce livre à part entière, puisqu'elle parle à la première personne. Donc légalement, en fait, elles eussent été co-auteurs.
Je disais au début qu'elle était l'une des deux peintres les plus chères de France à la fin du 19e siècle. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Néanmoins, elle continue d'être très admirée, mais sa peinture n'est plus aussi bien considérée qu'autrefois. Vous pensez que ça va revenir à la faveur de ce bicentenaire de sa naissance ?
Ça revient maintenant parce qu'elle est vraiment redécouverte et que le musée des Beaux-Arts de Bordeaux puis le musée d'Orsay vont faire des rétrospectives historiques. C'est vraiment merveilleux, ça. Toute cette bande a été un peu éclipsée par les impressionnistes, quand même.
Oui, et ils ont mis le temps, hein, les impressionnistes. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Merci, Natacha Henry. Je rappelle que vous êtes la grande autorité sur Rosa Bonheur, qu'on vous doit déjà 3 livres sur elle. Rosa Bonheur, l'audacieuse, c'est chez Albin Michel Jeunesse. Hein, c'est une courte biographie qui s'arrête quand elle a 22 ans. Il y a son amitié avec Buffalo Bill que vous avez raconté chez Robert Laffont. Et puis il y a ce livre, Souvenirs de ma vie, que vous publiez chez Phébus. Il est signé Rosa Bonheur et Anna Klumke. Europe 1.